3 à 246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors aujourd'hui, on va parler des écoles, mais des écoles de hameaux, en se servant principalement d'une enquête qui a été faite en 1881. Alors pour un peu revenir en arrière et resituer le contexte, en fait à la Révolution, tout l'enseignement a été changé. Alors on avait de grands principes et du coup on a fait des lois. Entre autres, ben, pour essayer de rendre la scolarisation obligatoire, on prévoyait une école pour 1000 habitants et surtout des instituteurs qui étaient salariés finalement. Et l'enseignement gratuit. Du coup à Sainte-Afrique, on a retrouvé une lettre qui prévoyait que pour la ville de Sainte-Afrique, il y aurait 8 instituteurs. Donc à chaque fois, c'est moitié homme, moitié femme, dont deux qui seraient à Tiergue. Pour La Peyre, Verzol et Vandelove, ainsi que Saint-Étienne de Nocoules, ils étaient deux. Et Calmel, Sélevialla et Bournac, ils devaient être deux aussi. Mais en fait, comme un peu partout dans l'ensemble de la France, ça n'a pas fonctionné, sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Ce qui fait que toutes ces écoles n'ont pas été créées. Mais petit à petit, on va les voir apparaître au cours du 19e siècle. Et vers 1880, donc au moment de l'enquête, on trouve 9 écoles primaires, sans compter celles de la ville. Donc il y en avait une à Bournac, une à Boussac, une à Crassous, une au Cambon, une à Savignac, une à Saint-Étienne-de-Naucoule, une à Tiergue, une à Vaillosy et une à Vandelove. Beaucoup ont été créés vers 1850. Et la plupart ont été fermés après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc on voit vraiment que, en fait, on le soupçonne pas forcément, mais il y avait vraiment des écoles partout. Et avec beaucoup d'élèves, quand on voit l'enquête, ils étaient vraiment nombreux. Parce que, entre autres, au 19e siècle, les seules conditions matérielles pour ouvrir une école, on retrouve des lettres qui en parlent, c'est simplement d'avoir une salle de classe, deux pièces pour loger l'instituteur, et une autre dans laquelle on stockera le bois de chauffage. Et pour ce qui est du matériel ou du mobilier, il suffit d'avoir des tables, des bancs, une estrade, un bureau, un tableau, une seule méthode de lecture pour tout le monde, pour la classe, et un crucifix. Parce que encore la laïcité n'était pas passée par là. Mais on va voir avec l'enquête de 1880 que finalement, c'était pas tout à fait appliqué. Mais c'était général à l'ensemble de la France, où en 80, on trouve des écoles primaires communales un peu partout, mais avec des moyens assez insuffisants, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on trouve dans les enquêtes des endroits où il y a des tables mais pas des bancs, des fois des bancs mais pas des tables, des fois quasiment rien. Il y en a même pas mal qui n'ont ni poêle ni cheminée. Donc du coup, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, est-ce que l'hiver, ils arrêtaient ou pas. C'est assez surprenant. Pareil, il n'y a pas de... Très rarement, il y a des cours ou des jardins. Il n'y a jamais ce qu'ils appellent de lieu d'aisance, dans aucune. Mais il y a quelque chose qui nous a un peu surpris, plutôt agréablement, on va dire, c'est que sur les 9 instituteurs, il y a 8 femmes. On ne s'attendait pas forcément à cette proportion-là. Et donc ça fait plus de... ça fait 90%, quoi. Alors qu'en fait, au même moment, il y a une enquête en Aveyron où les institutrices représentent à peine 25% des enseignants. De même, la moyenne des écoles par commune, elle est que de 5 dans le département, alors que, comme on l'a dit, à Sainte-Afrique, il y en avait 9. Donc on n'était pas si mal lotis. Ensuite, au même moment que cette enquête, les instituteurs devaient aussi justifier des absences, et donc du nombre d'absences et puis les motifs. Et alors là, on trouve des choses, donc certaines auxquelles on pouvait s'attendre, comme par exemple l'aide aux travaux des champs, aux travaux agricoles. Mais quand on regarde l'âge des enfants, on trouve plein de bergers ou de bergères qui ont 8 ans, 9 ans, d'autres qui vont faire les vendanges, certains qui restent à la maison pour soit garder les parents, soit garder leurs frères et sœurs. Et après, on trouve d'autres choses un peu plus surprenantes, notamment un élève qui n'a pas pu venir parce qu'il a porté des planches. Alors, on n'a pas bien compris. D'autres qui devaient être vraiment très pauvres et donc qui étaient des vagabonds, donc on ne les retrouvait pas forcément. D'autres qui étaient, et là on voit vraiment encore le poids de la religion, qui n'étaient pas venus en classe parce qu'ils faisaient leur confirmation ou bien ils se préparaient à la communion, etc. Les lois donc scolaires pour favoriser la scolarisation des enfants, elles apparaissent... les premières vers 1850, on va dire, mais elles mettent très longtemps à être appliquées. Et c'est pareil pour les lois du travail des enfants. qui arrive à la même époque, mais en fait, on ne se donnait jamais les moyens, ni de contrôle, ni de répression. On le voit notamment, il y a une enquête auprès des industriels dans la région, et on voit encore à la même période vraiment des jeunes enfants qui travaillaient, mais bon, qui travaillaient aussi pour le... c'est pas, faut pas voir que le côté noir des choses, c'est aussi pour le bien-être de la famille, essayer de rapporter un peu plus d'argent à la famille.
3A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.